Il est 17h30, vous écoutez Radio Campus Paris, vous retrouvez tout de suite petite consultation entre amis.
Petite consultation entre amis, l'émission santé complètement déjantée de Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris pour une rediffusion d'une partie de la nuit du bruit pour laquelle nous avions consulté toute une nuit en février. Et on a gardé pour vous le meilleur. On retrouvera l'interview d'Odile Tromelin, orthophoniste consacrée au bruit. On reparlera des grandes affaires sanitaires qui ont fait du bruit. Et on évoquera en secret le serment d'Hippocrate. On se quittera avec ce qu'on entend réellement dans nos stéthoscopes. Et donc prenez bien vos stéthoscopes, la consultation peut commencer.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
On retrouve notre cher Léo. Bonsoir, docteur Léo.
Ouais, bonsoir, et toujours présent.
Toujours cette voix profonde et caverneuse de la médecine.
D'autant plus la nuit, là.
D'autant plus la nuit.
Oui. On sent la voix caverneuse.
Oui, c'est magnifique.
Alors,
exactement. Et qui d'autre qu'une orthophoniste pour parler de la nuit du bruit. Bonsoir, Odile.
Bonsoir, et ravi de faire du bruit avec vous ce soir.
Exactement, Odile Tromelin, vous êtes orthophoniste et vous êtes avec nous pour toute la nuit.
Exactement.
Ah ben c'est super, ben justement, on va commencer avec une petite interview.
C'est formidable, guidé par le plaisir immédiat.
Il faut être beaucoup plus vigilant et avoir l'antibiothérapie.
Chut, c'est à toi qu'interview. Odile Tromelin, on le disait, vous êtes orthophoniste. Alors, c'est pas un gros mot. Le mot d'orthophoniste, ça veut dire quoi? C'est un métier, c'est une fonction, c'est une profession, mais concrètement, si on revient un peu sur l'étymologie du mot...
Alors l'étymologie du mot, c'est quand même un mot un peu barbare, c'est pas un gros mot, c'est un peu barbare, car ça vient de ortho, qui veut dire correct, de phoner la voix. Donc au départ, on a cherché à corriger, rééduquer la voix. Et l'histoire de l'orthophonie, ça s'est fait avec des gens qui ont cherché à aider les personnes qui avaient des becs de lièvre, les lèvres fendues, les palais fendus, et à les réparer et à leur permettre de parler correctement.
Alors pour devenir orthophoniste, quelques années d'études quand même.
Eh oui, quelques années d'études et ça ne va pas en s'arrangeant. Mais pour le plus grand bien des patients et le plus grand intérêt des personnes qui font ces études-là, c'est des études qui, depuis 1986 jusqu'à 2013, comptaient 4 années et qui, en 2013, sont passées à 5 années. Donc on passe à un M2 pour l'homogénéisation des diplômes européens. C'est des études qui se font dans des UFR qui sont reliées à des facultés de médecine. Il y a 19 UFR en France et le 19e ouvre à la rentrée 2016 à Clermont-Ferrand.
Eh ben voilà, on va faire nos études à Clermont-Ferrand, c'est tellement joyeux à côté de l'usine Michelin, c'est tellement sympa. Non mais on aime beaucoup Clermont-Ferrand. Alors justement, je suis patient, je souhaite prendre contact, en tout cas au rendez-vous ou être suivi par une orthophoniste. Comment ça se passe avec le médecin généraliste?
Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on est des praticiens paramédicaux, donc on n'est pas des médecins. Et donc on va aider, on est des auxiliaires paramédicaux, donc on va aider les médecins dans leurs soins. Ce qui fait qu'il vous faut une ordonnance de votre médecin ou de votre dentiste ou de certains médecins spécialistes qui vont vous orienter chez une orthophoniste. Il faut donc passer par un médecin ou un dentiste pour aller consulter une orthophoniste. Ou un orthophoniste.
Tout à fait. Mais ensuite, la consultation est par contre prise en charge.
Tout à fait. C'est un métier qui est conventionné avec la Sécurité sociale et qui est donc remboursé à 100% par la Sécurité sociale et la mutuelle.
Alors, est-ce que nous, du coup, avec cet avis de professionnel, autant en profiter?
Exactement.
Qu'est-ce que vous pensez de notre affluence?
Est-ce que certains, sur le plateau, ont des troubles de la parole? Enfin, en tout cas, des troubles de la diction? Allez-y, balancez,
c'est
Odile.
C'est le moment.
Alors, je suis quand même soumise au secret professionnel,
tout,
comme
tout
les médecins.
Tout ce qui est dit ici reste entre nous.
Donc, je vous propose qu'on se retrouve privée. Hors antenne après cette émission.
La nuit du bruit, de 22h30 à 5h30, sur Radio Campus Paris, 93.9.
Retour avec une petite consultation de nuit et on vous fait le tarif de nuit ce soir. Hein. Ah oui, ce soir par contre sortez vos cartes vitales parce que ça...
voilà, attention, ça... dépassement d'honoraires.
Voilà, exactement, tout à fait. Et en plus du coup on vient à votre domicile. Alors retour avec justement Odile Tromelin.
Retour au studio.
Retour dans les studios, on s'égare cette nuit, on s'égare. Avec Odile Tromelin, orthophoniste. Et justement on parlait un peu de la séance d'orthophonie. Et bien qu'est-ce qu'on fait? Et on fait plein de petits exercices.
Tout à fait. Et alors d'ailleurs on va avoir deux types de séances d'orthophonie parce que dans le décret de compétences des orthophonistes, il y a des séances d'éducation qu'on va utiliser plutôt pour les troubles développementaux, pour apprendre des fonctions qui n'ont pas encore été mises en place, ou des séances de rééducation. Et là, ça va être la réadaptation d'une fonction défaillante. Alors, on va pouvoir agir sur des fonctions musculaires ou neuromusculaires, ou agir sur des fonctions cérébrales. Donc, on ne prend pas nos petits outils pour aller trifouiller dans le cerveau des patients, parce que ça on ne sait pas encore faire. Et même les neurologues ne savent pas encore le faire. Par contre, on va agir avec des entraînements systématiques sur les circuits neuronaux pour permettre aux fonctions de se réadapter et de trouver des chemins plus efficaces pour pouvoir réparer ces fonctions défaillantes.
Et donc, à partir de là, il y a des petits exercices que vous m'expliquiez tout à l'heure en antenne.
Tout à fait. Et puis bon, comme c'est la nuit du bruit, on va essayer de prendre des petits exercices sonores plutôt que visuels, parce qu'à la radio, c'est quand même plus pratique.
Exactement, parce qu'on n'a pas beaucoup d'auditeurs qui ont l'image. Donc, allons-y et on commence avec...
Heureusement,
je ne raconte pas l'état des gens dans le studio. Et on commence avec un petit tour de cheval, si je ne m'abuse.
Donc, on va voir si vos fonctions bucco-faciales sont efficaces ce soir autour de cette table.
Alors, et tout ça n'a rien de sale.
Non,
mais voilà.
Il faut savoir que pour faire l'orthophonie, il faut avoir un certain sens de l'autodérision et accepter de faire des grimaces en public. Et là, on a un large public dans le studio.
Ouais, ils nous regardent derrière la vitre.
Alors, donc, le cheval...
Je vous propose de faire le cheval. Vous allez faire un claquement de langue, comme un cheval au pas.
Ah bah, vous le faites vachement bien. Alors, moi, je le tente. Hein.
Ah, c'est bien, on se croirait à Paris, sur les pavés.
Oui. Eh, hey, pas mal. Eh, hey, il y a même des chevaux un peu partout.
Cocher, arrêtez ce fiacre, c'est parfait, vous y arrivez tous.
Et alors, donc ça sert à quoi? Parce qu'à part être ridicule dans le studio,
alors,
c'est déjà pas mal. Hein.
Ça, c'est un exercice qu'on va utiliser, par exemple, pour rééduquer les troubles de la déglutition. C'est un exercice qu'on peut aussi utiliser pour entraîner les muscles de l'arrière de la langue pour articuler correctement les que et les gue. Voilà. Ça, c'est... Donc... Et alors, une fois que le fiacre a fait le tour de Paris sur les pavés, il est un petit peu fatigué, notre cheval.
Et donc là, c'est le fameux le cheval en amarre.
Le cheval en amarre, le cheval est fatigué.
Ah, vous, et vous faites même la tête qui... Alors, pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, hein,
qui
la tête, exactement, ah ben, la crinière. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique.
Alors, je vous en prie, à votre tour. Ah.
C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai l'impression que votre cheval a vraiment du mal. Ouais. Voilà, il en a vraiment marre.
Il est très, très fatigué.
Ah oui, il en a vraiment, vraiment marre. Très bon, Léo, je pense que vous pouvez faire le...
L'exfastation.
C'est pas trop mal, c'est pas trop mal.
La crinière, c'est pas tout à
fait
ça.
Oui, la crinière, c'est pas tout à fait ça, pourtant vous avez des petites bouclettes.
Pourtant, j'ai plus de cheveux que vous, hein, c'est vrai.
Ouais, on n'attaque pas mes cheveux, de parler aussi. Non, mais... donc ça, c'était le cheval qui en a marre.
Voilà, donc là, c'est un exercice qui va permettre de trouver un bon équilibre musculaire entre la détente et la contraction au niveau des lèvres. C'est un exercice dont on va pouvoir se servir sur les rééducations vocales, par exemple, de chant ou de voix.
Et on reste dans les animaux, le poisson.
Tout à fait. Alors, on y va. Un poisson. Alors là, je me sens vraiment dans un aquarium parce qu'on est derrière une vitre.
C'est un sacré vendredi soir.
Un petit banc de poisson dans l'aquarium.
On passe une soirée de malade.
Donc, de nouveau, c'est un exercice qui va nous permettre de muscler les lèvres et les joues. Et chez les petits-enfants qui sont un peu hypotoniques et qui ont un peu la langue qui bave et la mâchoire un peu basse, on va remuscler un petit peu toutes ces fonctions-là pour les faire articuler correctement.
Mais même quand vous nous parlez de bave, c'est magnifique, Odile. Alors du coup, le poisson et on a le vide tes joues.
Alors c'est un petit peu le contraire du poisson, c'est-à-dire que là, on va chercher à garder les lèvres bien serrées, gonfler les joues avec beaucoup d'air, puis...
Ah, on tape, donc on tape sur les... Voilà, on gonfle nos joues et on tape avec nos index sur les joues.
Donc là, on va travailler...
Et alors ici, il faut retenir un peu l'air ou pas, non ?
Oui, il faut retenir un petit peu l'air, c'est le but, puisqu'on va travailler l'orbiculaire des lèvres. Pour avoir
c'est
de nouveau
grosse rigolade.
Une bonne musculation.
Okay. Si on est des jeunes du sud qui nous a payé.
Et donc si vous ne pouvez pas faire ça correctement, tout à l'heure, pour le piège à eau, vous allez recouvrir la table du studio, ça va être une vraie inondation.
Donc ça muscle vachement les lèvres. Mmh. D'accord, ah, pas mal.
Bon, si on reste dans le bestiaire.
Oui, tout à fait, ouais. On a la mouche.
On a la mouche. Alors la mouche, en fait, vous allez faire un son en fermant votre bouche. Ça va donner ça.
Arrêtez de me toucher, Léo.
Alors, on n'est pas sur Radio Yoga, on n'est pas tous en train de faire le home, mais ça donne à peu près ça.
Enlevez votre main, Léo. Ah, mais c'est incroyable, ça.
Qu'est-ce qu'on rigole.
Donc ça, c'est la mouche.
Et alors, la mouche, c'est un exercice très pratique qui a pour bénéfice de masser les cordes vocales. Donc, c'est un très bon exercice d'entraînement vocal pour vous, animateurs de radio. Vous pouvez le faire un petit peu avant de passer en antenne.
Donc, avant une petite présentation orale ou des choses comme ça, le petit truc...
Oui, et puis c'est un exercice qui détend énormément, qu'on peut utiliser aussi pour les personnes bègues, pour les préparations vocales, ce genre de choses.
Et ça, même si on n'a pas de trouble de la diction, ça vaut quand même le coup, en fait, de faire ces petits exercices de temps en temps ?
Complètement.
Ça muscle la bouche, enfin, en tout cas, tous les muscles faciaux.
Et ça prévient l'apparition des rides d'expression.
Non, pas mal. Non, pas du tout, non, absolument, non, d'ailleurs. Ah oui, voilà. Bon. Et alors, et du coup, le fameux piège à eau. Ah.
Alors, le piège à eau, c'est un des grands classiques de la rééducation de la déglutition. Il est assez rigolo à faire. Vous prenez une petite gorgée, et j'insiste sur le petite gorgée.
Petite gorgée, voilà, ah, voilà,
c'est,
exactement.
C'est l'exercice que n'aime pas notre ingénieur du son.
Exactement, Étienne est en train de perdre connaissance. Il nous faudra un autre médecin, s'il vous plaît, dans les studios. Étienne, tout va bien se passer. Hein. Vous rassurez-vous.
Alors, Odile.
Et vous allez maintenir la petite gorgée entre votre langue et votre palais.
On boit la gorgée.
Oui, non, mais vous ne l'avalez pas.
D'accord,
vous la
okay.
mettez en bouche sans l'avaler.
Okay,
vous allez maintenir la gorgée entre votre langue et votre palais. Et là où ça devient rigolo, c'est que vous allez sourire.
Ah oui, mais ah oui, avec, mais les, dents, avec les dents.
Voilà. Et puis on peut même se pencher en avant et essayer de ne pas s'arroser des genoux ni des feuilles de notes.
Et là, après, il faut avaler l'eau.
Et
c'est
là,
ça.
Vous avalez.
Et donc, si vous avalez et qu'il n'y a pas une goutte d'eau, c'est là que c'est gagné.
Pas une goutte d'eau, les gars.
C'est-à-dire qu'a priori, voilà, vous n'avez pas besoin de venir me voir, Mélanie.
Génial.
Pas mal, pas mal. Léo, il y a de la faute partout. Mais oui, alors du coup, Léo, on est inondé. On est inondé. Est-ce qu'on pourrait avoir une serpillière, s'il vous plaît?
Tu vois, la cible facile, hein, c'est ça.
Bah, docteur, on n'est pas là ce soir.
Je vais me venger, docteur Loïc. Faites attention dans les minutes qui nous restent.
Oui, je sais.
30 minutes. Là,
30 minutes, exactement. Alors justement, revenons un peu, faisons un grand voyage dans l'oreille et parlons un peu de l'anatomie. Si on part un peu de l'extérieur vers l'intérieur.
Alors si on part de l'extérieur vers l'intérieur, on va faire un voyage sonore du pavillon de l'oreille jusqu'aux zones temporales de notre cerveau.
Waouh, ça va pas faire trop mal normalement.
Non, je vous assure. Alors si on part de l'oreille, on va passer par le conduit auditif externe. C'est celui dans lequel vous fourrez votre petit doigt quand il y a un truc qui gratte.
Ou votre coton-tige.
Ou votre coton-tige, alors pas
alors,
trop
c'est
loin.
C'est pas génial, hein, exactement, ouais. Le coton-tige, on le rappelle, c'est pas si génial que ça en fait pour les oreilles. C'est même pas forcément très bon.
C'est même pas forcément très bon parce que notre conduit auditif externe, il est tapissé de petits poils qui ont pour fonction de sortir les poussières de notre conduit vers l'extérieur. Sauf que les petits poils, ils vont pas jusqu'au bout, ils vont pas jusqu'au tympan. Donc si vous enfoncez votre coton-tige trop loin, en fait, les poussières ne seront plus évacuées par les petits poils et vous allez créer des bouchons au fond de l'oreille et des possibles infections le long du tympan.
Et puis le sébum a un rôle protecteur dans le conduit.
Exactement, en fait, le sébum, il est là pour protéger le conduit auditif externe des attaques bactériennes. Donc il faut quand même garder les oreilles un petit peu grasses, mais pas trop.
Donc c'est pas mal d'avoir un peu du miel dans les oreilles, c'est ça?
Exactement.
Docteur Léo, vous avez du miel dans vos oreilles?
Pas du tout, enfin, juste ce qu'il
juste
faut.
Ce qui, ouais. Comme je dis, juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Donc du coup, on est dans ce conduit auditif externe.
Et on se confronte à une barrière de peau, qui est en fait un petit peu comme un tambour, qui est comme la peau tendue sur un tambour et qui est le tympan, qui va fonctionner exactement de la même façon que la peau tendue sur un tambour. De l'autre côté de cette peau tendue, on arrive dans l'oreille moyenne. Sur cette oreille moyenne, on a trois petits cartilages qui portent des noms assez exotiques de marteau, enclume et étrier. Rien à voir avec le bloc communiste, mais c'est le bloc de l'audition. Ces trois petits cartilages vont vibrer avec le son qui arrive sur le tympan pour aller taper sur la fenêtre ovale. La fenêtre ovale, encore un nom bizarre. La fenêtre ovale, en fait, c'est l'entrée de l'oreille interne. Dans l'oreille interne, on a la cochlée et on a le vestibule. C'est les structures anatomiques qui vont transformer les vibrations en impulsion électrique pour ensuite aller dans le nerf auditif qui va amener l'information électrique. Donc le son devient une information électrique, le son mécanique devient une information électrique et arrive dans notre cerveau jusqu'aux zones temporales où nous allons décoder ce son pour décider si c'est du bruit ou de la parole, par exemple.
Et alors, l'oreille n'a pas qu'une fonction au niveau de l'audition, ça marche également pour l'équilibre?
Voilà, je vous ai parlé dans la partie de l'oreille interne, après l'oreille moyenne, de la cochlée et du vestibule. La cochlée, c'est l'endroit où se loge, c'est une espèce de petit colimaçon comme un escargot dans lequel se loge le nerf auditif, mais le vestibule, c'est l'organe de l'équilibre. Il est constitué de trois petits canaux.
Ça, c'est quand même assez remarquable, parce que c'est d'expliquer à nos auditeurs ces petits canaux, les petits éléments qui circulent à l'intérieur.
Alors, on a trois petits canaux qui, en fait, reprennent les trois dimensions de l'espace, qui nous permettent, en fait, de modéliser la perception de l'espace. Dans ces petits canaux, il y a du liquide. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des otolithes, des encore plus petits cartilages qui se baladent.
Donc
et
ça, fonction, c'est tout, tout petit.
C'est minuscule, ça fait un millimètre de diamètre. Et en fonction de la position dans laquelle vous mettez votre tête, les petits otolithes, ils vont se balader dans les canaux. Et en changeant la pression du liquide sur les canaux, nous, on va intégrer ces informations et comprendre si on a la tête penchée vers la gauche, vers l'arrière ou vers l'avant.
Donc c'est un peu, si on ouvrait ces canaux, parce que c'est en circuit clos, hein, si on ouvrait ces canaux, c'est comme, un peu, comme si on regardait dans un kalinoscope, c'est ça?
C'est un peu
plus
ça.
Plus ou moins, plus ou moins. Petite image.
C'est un peu ça, et c'est surtout un organe extrêmement fragile et qui peut nous jouer des tours, on le verra un petit peu plus tard.
Et bien justement, revenons, le lien est tout fait justement sur ces messages de prévention, on ne le dira jamais assez, mais en gros, quelques petits conseils. On va à un concert, les fameux boules qui est, en tout cas les petites boules qu'on peut se mettre dans les oreilles, ça peut vous sauver les tympans. Enfin, surtout le nerf auditif, en l'occurrence.
Oui, surtout le nerf auditif, parce que une fois qu'il est lésé, il n'y a plus de récupération possible. C'est un traumatisme à vie. On considère, donc en prévention, on considère que si on est exposé à 80 décibels 8 heures par jour, on a un risque professionnel d'exposition au bruit.
La nuit du bruit sur Radio Campus Paris, avec une petite consultation de nuit et des tarifs presque de nuit. Et on retrouve évidemment notre interview avec Odile Tremblin.
C'est formidable, guidé par le plaisir immédiat.
Il faut être beaucoup plus vigilant et avoir l'antibiothérapie.
Chut, c'est à toi qu'interview. Alors on a parlé, Odile Tremblin, orthophoniste, eh bien, des pathologies de l'audition. On a parlé un petit peu effectivement des prothèses auditives. Grosse nouveauté, c'est les implants cochléaires.
Oui, alors c'est une nouveauté qui a une petite trentaine d'années, mais c'est un appareil qui se perfectionne de plus en plus et sur lequel on a une bonne maîtrise de l'opération, parce que c'est quand même une opération lourde. On va venir mettre un appareil en deux parties. Une partie externe qui va être comme un appareil auditif derrière l'oreille, qui est constitué d'un micro et d'un microprocesseur, qui passe ensuite un fil sous la peau, et ce fil est relié à une électrode qu'on implante dans la cochlée, donc à la place du nerf auditif. Donc quand on a une surdité profonde de perception, on va un petit peu remplacer le nerf auditif pour envoyer quand même des informations électriques au cerveau et essayer de reconstituer un signal électrique qui va donc être décodé par le cerveau comme un signal sonar.
Donc là, ça c'est quand même un peu révolutionnaire parce qu'on remplace vraiment les fonctions de l'oreille.
Alors, oui et non. C'est assez révolutionnaire parce qu'on remet un signal auditif, sauf que ça n'a rien d'un son naturel, donc ça nécessite une longue rééducation orthophonique en particulier, pour que les gens assimilent ces sons que le cerveau perçoit à de la parole. Le but du jeu, c'est que la personne ait une audition suffisante pour comprendre la voix parlée.
Alors, vous parliez de la trompe de Stache, alors c'est justement le lien rêvé pour la fameuse manœuvre de Vasalva.
Et oui, alors la fameuse manœuvre de Vasalva.
Alors si inventée... nos auditeurs font un peu de plongée, peut-être ils connaissent, c'est quelque chose qui est un peu connu quand
voilà.
même.
Inventée par Antonio Maria Vasalva, il y a
d'où
fort longtemps.
D'où le nom, effectivement.
Toute logique.
Hein. Alors au départ, ça a été justement pour ces histoires d'otite, pour encore, pas glamour, évacuer le pus à travers le tympan chez des patients dont on avait percé le tympan. Bon, maintenant, on s'en sert quand on est plongeur ou quand on prend l'avion, en général, quand on descend, quand on va atterrir, pour équilibrer la pression entre l'oreille moyenne et le conduit auditif externe, en faisant passer de l'air à travers la trompe de Stache, qui est le lien entre l'arrière de votre nez et votre oreille moyenne.
Donc ça rééquilibre finalement les pressions.
Parce qu'en fait, quand il y a une dépression entre l'oreille moyenne et l'extérieur de
ça,
votre...
Ça, les dépressions, on connaît. Hein.
Ah, c'est dur, c'est toujours très dur et douloureux, mais surtout, c'est douloureux. Donc ça tire le tympan, et en fait, le tympan, il n'aime pas être tiré, il aime bien être tendu comme la peau d'un tambour, donc on rééquilibre la pression
donc
sur la peau
la
du tympan.
La manœuvre de Vasalva, ça se fait comment? Alors, boucher le nez, c'est ça?
Oui, il faut quand même y aller mollo, parce que c'est une manœuvre qui peut être traumatisante, et on peut créer un barotraumatisme, donc on va le faire doucement, et on va le faire uniquement quand on est dans ces fameuses situations de dépression.
Du tympan.
Du coup, il faut que je le fasse.
Donc vous allez mettre le pouce sur une narine et l'index sur l'autre narine, serrer votre nez, et puis vous allez mettre de l'air dans vos joues et essayer d'envoyer...
Donc, bon, pour les auditeurs qui ont l'image, Mélanie le tente et... Ah bah, Mélanie vient de perdre connaissance.
Voilà. Pour ça, j'ai dit doucement, pas de barotraumatisme en studio.
Ah, y a un petit peu
de sang
qui coule. Il y a un petit peu de sang qui coule de l'oreille, c'est
bon,
rien du tout.
Voilà, donc on va pousser un petit peu d'air à travers les trompes de Stache pour rééquilibrer la pression dans l'oreille moyenne.
Donc ça vaut le coup qu'on ait des changements, notamment changements d'altitude. C'est le cas avec les avions, avec la plongée.
Voilà, quand on est un petit peu enrhumé, quand on monte en voiture un peu vite à la station de ski, on peut le sentir aussi. Ça marche très bien en faisant ce que vous venez de faire. Donc on n'est pas obligé de passer par la manœuvre de Vasalva, on peut aussi bâiller ou déglutir.
La bonne publicité.
Donc alors, Mélanie vient de se réveiller en direct. Ah bah,
alors moi, en tant qu'orthophoniste...
Si la petite consultation ne vous intéresse pas, Mélanie, écoutez...
En tant qu'orthophoniste, je valorise énormément le bâillement auprès de mes patients parce que je leur dis qu'en fait, c'est un signe de respect pour l'interlocuteur.
Et de résistance, hein, ça, de résistance au sommeil.
Parce qu'en fait, quand vous vous bâillez, vous réoxygénez votre cerveau. Donc ça veut dire que vous faites un effort pour écouter les personnes qui sont en face de vous. Avis aux professeurs qui voient leurs élèves bâiller au fond de la classe.
Exactement, donc ça veut dire qu'ils résistent pour suivre le cours, mais c'est formidable.
Exactement.
Waouh. Merci en tout cas pour toutes ces informations. On est en train de faire des manœuvres de Vasalva à non plus finir justement. Un grand merci Odile, vous restez avec nous évidemment jusqu'à la fin de l'émission. Dans cette fin d'émission, on va revenir sur ce qui a fait du bruit, sur des scandales sanitaires, et puis on reparlera et on essaiera justement d'identifier un peu certains bruits auscultatoires qu'on entend au stéthoscope. On essaiera de vous les faire découvrir en son, et puis derrière on reviendra sur le fameux serment d'Hippocrate, mais tout de suite en route pour nos piqûres de rappel.
Maintenant, la suite de nos informations.
Tout aujourd'hui, jeunesse de France.
Mes chers compatriotes,
nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires.
Et on écoute Jeunesse de France, alors cette fameuse voix qui n'a rien à envier une nouvelle fois à Malraux. Docteur Léo, vous nous parlez d'un scandale sanitaire qui était le jour où on a découvert que fumer, c'était mal.
Ouais, et cette date, c'est le 26 juin 1954, où Richard Doll, un personnage aux contradictions aussi fantaisistes que ses cravates, mais surtout médecin épidémiologiste britannique, publie un article dans le British Medical Journal. Alors celui-ci porte sur le lien entre cancer du poumon et tabagisme. Pour la première fois, il est scientifiquement prouvé, établi que le tabac, c'est mal. Alors nous sommes en 1954, il y a 60 ans. C'était à l'époque de la présidence de René Coty.
Pour sceller notre amitié, je vais te donner quelque chose. Regarde, c'est notre Raïs à nous. C'est monsieur René Coty, un grand homme.
Un grand homme, docteur Léo, et un grand extrait, j'ai l'impression.
Un grand extrait, oui, donc aussi grand que le temps qui s'est écoulé, donc depuis 1954, soit 60 ans. Donc c'était aussi à l'époque du retrait de la France d'Indochine, par exemple. C'était il y a longtemps, bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Mais si j'insiste sur cette temporalité aussi longue, c'est pour montrer que ce qui est saisissant dans toute cette affaire, ce n'est pas tellement les recherches successives qui ont démontré la nocivité du tabac, mais plutôt les efforts réussis d'ailleurs des industries du tabac pour amoindrir, corrompre et ralentir un débat de santé publique. Alors du coup, on va partir sur la base sur laquelle s'est fondée ces industries du tabac, pardon, pour réussir un peu leur manœuvre. En fait, c'est le doute, hein, c'est la base même, certes, de toute recherche scientifique, mais bien à coup de millions, ces entreprises, elles vont financer des recherches qui vont avoir pour but non pas de décrédibiliser des vérités existantes, mais pour en proposer des alternatives. Exemple, elles vont doper la recherche biomédicale, non pas pour trouver des remèdes, ça non, mais pour montrer qu'il existe des prédispositions génétiques à certaines maladies que d'autres recherches attribuent très largement à la cigarette.
Elles vont ainsi... En gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les recherches nous disent, en fait, si vous avez un cancer, c'est pas que à cause du tabac, il y a des gens qui sont génétiquement prédisposés, etc., etc.
Voilà, c'est ça, on cherche un peu des alternatives pour un peu nous noyer le poisson du côté de la cigarette.
C'est très très mal tout ça.
Voilà, donc elle cherche à diluer l'information, un peu à instrumentaliser le doute scientifique pour maintenir une controverse qu'elles savent qu'il n'y a pas lieu d'être. Alors toute leur stratégie va être de créer une narration, mais pas une vérité alternative favorable au monde du tabac. Et cette narration, elle est incroyablement minoritaire, mais terriblement écoutée, parce que l'industrie du tabac, par les profits qu'elle réalise, elle est capable de s'ouvrir des réseaux scientifiques, médiatiques et politiques gigantesques. Donc en résumé, on a un cocktail explosif, des multinationales sans scrupules, des chercheurs achetés et des hommes politiques et des médias complices. Vous mélangez ça, tout ça bien fort et vous obtenez d'une part une source considérable de nuisances, une gigantesque manipulation et pas mal de bruit.
Malheureusement, on n'a pas toute la nuit. Ah là là là. Mais par contre, peut-être revenons un peu, on a parlé beaucoup de bruit, il ne faudrait pas non plus oublier le rôle du silence dans la médecine. Et ce silence, c'est le fameux secret médical garanti depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ par le serment d'Hippocrate.
En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, et selon la tradition d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque.
Q que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. C'est le serment d'Hippocrate. Alors justement, qui est ce bon vieux Hippocrate, docteur Léo ?
Eh bien, c'est l'un des plus illustres médecins de l'Antiquité. C'est en quelque sorte le père de la médecine rationnelle. Alors, c'est l'homme qui est le premier à prôner un diagnostic à partir de l'observation objective du malade. Il sort donc la médecine de la religion. Il a franchi la pratique médicale de la magie. Les dieux sont absents des causes. La magie déserte les remèdes. Et tout ça, donc, à la fin du 5e et au début du 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'erreurs dans les nombreux textes, d'ailleurs, que nous a laissé Hippocrate. Mais ses réflexions et ses préceptes sur la diététique, l'hygiène suscite tout de même une bonne dose d'admiration.
Alors ce serment, le serment d'Hippocrate, c'est quoi exactement ?
En fait c'est tout simple, c'est un ensemble de règles éthiques, de probité, une sorte de code déontologique que doivent respecter les médecins dans l'exercice de leurs fonctions. Alors il est rendu obligatoire par édit royal en 1707 et toujours prononcé aujourd'hui par les jeunes médecins à l'aube de leur carrière. C'est un principe au cœur de la médecine, ce secret qui fait partie du serment d'Hippocrate et donc c'est la base d'un lien de confiance entre le médecin et le patient qui permet parfois justement de délier la parole du patient, donc de mieux saisir les bases d'une maladie et en conséquence de mieux la traiter. C'est aussi une condition de respect d'ailleurs.
C'est le fameux « il n'y a pas de médecine sans confiance, il n'y a pas de confiance sans secret ».
Exactement.
C'est tout ce qui me reste des cours de déontologie médicale.
Pas mal.
Oui, pas mal, du beau boulot.
Ce serment il a quand même évolué à travers le temps, il faut le dire. Bon, alors grosso modo, il a gardé sa forme avec son contenu, mais donc quelques petites évolutions à la marge. Donc la teneur générale est la même, mais les dieux grecs sont évidemment supprimés, tout comme l'interdiction à l'époque explicite de la pratique de l'avortement.
Très bien, et alors justement, comme on a toujours Odile Tromelin en plateau, il y a un court-métrage sur le serment d'Hippocrate avec un jeune médecin qui n'arrive pas à prononcer ce serment d'Hippocrate.
Et oui, c'est particulièrement compliqué pour lui, parce que outre qu'il a été au bout de ses études de médecine, il est aussi bègue. Et c'est un très très beau court-métrage dont on va entendre un extrait, je crois.
Amis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qu'il s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs.
Alors on va pas revoir tout le film, en tout cas réentendre tout le film, mais on le retrouve sur YouTube en accès libre.
Tout à fait, il s'appelle Le Serment et je vous invite à aller le voir, il est particulièrement émouvant.
Allez, on l'a dit, juste avant de se quitter, on est très très en retard, mais quelques sons qu'on peut écouter au stéthoscope rapidement, allez pour nos auditeurs, ce que nous on entend effectivement quand on vous ausculte. On entend ça.
C'est vachement sympa.
C'est pour ça qu'on sourit. Hein, exactement. On entend Rika Zaraï.
C'est génial.
Ouais, ça y est, on a réussi à placer Rika Zaraï. Alors
c'est bon,
non, alors on peut, si on peut écouter peut-être un murmure vésiculaire, Étienne. Voilà, alors ça c'est un son normal. Voilà, c'est la respiration normale qu'on entend au stéthoscope. Alors quand il y a une infection, on entend ce qu'on appelle des crépitants. Alors on va enchaîner tout de suite. Et vous allez voir, le son est un peu différent.
Ah oui, ça crépite.
Et ça crépite. Et en fait, alors la littérature médicale est très belle. Parce qu'elle dit, c'est comme si on marchait dans la neige. Et alors on vous a retrouvé des bruits de pas. Et vous allez voir que la différence est assez... Voilà, c'est ce qu'on entend, en tout cas c'est ce qu'on recherche quand on va rechercher effectivement eh bien, une infection. Donc ce sont les petits crépitants et donc on arrive à déterminer comme ça en écoutant eh bien, l'auscultation pulmonaire où est l'infection. Ah, voilà, on n'a pas le temps de tout vous passer.
Radio expérimental, hein, ce soir.
Oui, alors c'est très très sympa. En tout cas, un grand merci à la réalisation. Eh bien, il y avait Étienne, Mélanie qui nous a évidemment eh bien, annoncé toutes nos plages de musique.
Eh oui.
Petite consultation, en tout cas pour la nuit, cette consultation de nuit c'est terminée. On se retrouve par contre demain 17h30 18h docteur Léo, vous serez là?
Je serai là.
Ouais, enfin prendre un peu du café du Guronzan. On parlera des dents, si je ne m'abuse, je crois
ça,
qu'on parle des dents eh bien demain et puis juste après nous c'est les fesses à l'air, hein, si je ne m'abuse.
C'est exactement ça. Ils sont chauds, ils sont là, ils sont hyper nombreux surtout.
Il y a 20 personnes. Qui essayent de nous chasser parce qu'on a un peu de retard. On rend l'antenne, on vous aime aussi.
On vous aime.
Allez, quittez pas l'écoute évidemment de cette nuit spéciale bruit. C'était donc la rediffusion d'une partie de la nuit du bruit qui s'était déroulée dans la nuit du 26 au 27 février. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission cette fois en direct à la technique et à la réalisation de nos deux réalisateurs préférés, Quentin et Étienne. Après nous à 18h, l'œil à l'écoute, à 19h vous retrouvez Tropical Club et allez également écouter la bouquinerie, ça fera plaisir à Quentin. C'est un mardi sur deux de 20h à 21h. Plus d'infos sur www.radiocampusparis.org. Vous retrouvez tous nos podcasts, nos photos d'émissions et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, ciao.
Saint Paul.